Voilà, gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur pour toutes ces bonnes nouvelles. Et pour la belle et plus grande nouvelle, voilà, l'Église s'agrandit et on est très très heureux d'avoir avec nous maintenant un nouveau membre, Benoît. Voilà, la semaine dernière, c'était Aline, elle est là. Et puis, il y en a encore d'autres qui doivent arriver. Il y a donc, David me disait que Gérard était peut-être atteint du Covid ou de la Covid, mais voilà. Donc aussi, le Seigneur continue son œuvre, Covid ou pas Covid, le royaume de Dieu avance. Amen. Je suis heureux de vous retrouver également ce matin dans la présence de notre Seigneur. Amen. C'est bon, c'est important, la parole de Dieu. On va lire un passage dans l'Écriture, dans le livre du Lévitique. Dans le livre du Lévitique. Lévitique, alors jeudi, je partageais sur Jonas. Je vais peut-être continuer à parler de Jonas. Dieu voulant, la prochaine fois, donc, on retrouve Jonas à Ninive et on voit les Ninivites se convertir, donner leur vie au Seigneur. Tout arrive dans ce monde, même des gens eh bien, auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu dans Lévitique et on va lire au chapitre 4, si vous voulez bien. Alors, je sais que le Lévitique, ce n'est pas votre livre préféré. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment ce matin que quand vous arrivez sur le Lévitique, vous surfez un peu rapidement. Donc, on va essayer de ne pas trop surfer ce matin. Vous savez, la Bible dit que dans 2 Timothée 3,16, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute, de la Genèse à l'Apocalypse. Même les passages qui parfois nous semblent un peu ardus, on a l'impression qu'il n'y a rien à tirer pour notre quotidien, pour notre vie. Et pourtant, c'est important, le Lévitique, comme tout le reste de la parole du Seigneur. Alors, est-ce que vous permettez qu'on fasse une lecture ensemble et ensuite, bien sûr, on partagera un petit peu sur ces choses. Lévitique chapitre 4. Alors c'est Lévitique chapitre 4, c'est avant les sacrifices d'action de grâce. Ensuite, il y a les sacrifices de culpabilité. C'est beaucoup de sacrifices dans le livre du Lévitique, mais c'est un livre aussi inspiré comme tous les autres livres. D'ailleurs, quand on étudie un petit peu ce livre, on se rend compte qu'il y a à peu près 38 fois où Dieu s'adresse directement soit à Moïse ou à Aaron. Et on voit ici la marque véritablement de l'inspiration divine. Par exemple, il est dit, Lévitique chapitre 4 et verset 1er, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit. » Donc on voit Dieu s'adresser directement à Moïse et Moïse devait être le relais auprès du peuple de Dieu, de la pensée divine. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il y a une notion de responsabilité. Il offrira à l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Bon, c'est pas encore midi, ça va aller. Le sacrificateur, encore une fois, ayant reçu l'onction, comme quoi l'onction ne nous préserve pas du péché, prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Les deux rognons, la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs et le grand lobe du foie qu'il détachera près des rognons. Le sacrifice, c'est un peu de cuisine, hein. Le sacrificateur enlèvera ces parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice d'action de grâce et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa chair, avec sa tête, ses jambes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera hors du camp, dans un lieu pur où l'on jette les cendres et il le brûlera au feu sur du bois. C'est sur le tas de cendres qu'il sera brûlé. On continue, s'il vous plaît. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau et il la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire, il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il leur sera pardonné. Il emportera le taureau hors du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Amen. Amen. Je vais prier le Seigneur pour que notre Dieu nous aide ce matin dans sa parole. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle est, comme on vient de le dire, inspirée de la Genèse à l'Apocalypse. Elle est vivante. Elle est aussi source de vie, elle est source de lumière. Merci de nous parler ce matin par ton Saint-Esprit. Merci parce que tu es ce Dieu vivant, tu es ce Dieu merveilleux, tu es ce Dieu puissant. Et nous croyons, Seigneur, eh bien que tu vas encore te manifester au milieu de nous par le Saint-Esprit. Merci de conduire ce moment dans ta grâce et par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, l'Éternel parle à Moïse ici et Moïse va parler aux enfants d'Israël. Et il va parler du péché. Alors ici, il est question d'abord du péché involontaire. Du péché que le peuple de Dieu peut parfois commettre involontairement. Vous savez, il est question ailleurs dans l'Écriture de ceux qui pêchent les mains levées quelque part, qui pêchent aux yeux de tous et volontairement. Ici, il est question du péché, mais du péché involontaire. Il est question du péché, par exemple, du sacrificateur. Ensuite, nous l'avons lu, de l'assemblée en général. Il y a des péchés personnels, il y a des péchés collectifs. Mais quelle que soit la nature ou la raison de nos péchés, avec le Seigneur, il y a toujours la possibilité d'exprimer et de vivre la grâce de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas, mais je ne connais personne sur la terre qui ne pêche jamais. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, à partir du moment où on est croyant, où on est chrétien, il est évident que nous n'avons plus le même rapport avec le péché. Nous ne sommes plus des pécheurs volontaires. Il peut arriver qu'en tant qu'enfant de Dieu, bien qu'aimant le Seigneur Jésus, que nous péchions encore. On peut pécher, par exemple, par ignorance. On peut pécher sous la pression également de la tentation. Mais je crois aussi que nous devons, en tant que peuple de Dieu et enfants de Dieu de la Nouvelle Alliance, apprendre à vivre dans la liberté que nous donne la grâce qui est en Jésus. Alléluia. Ici, donc, quand le sacrificateur péchait, il était lui-même le représentant de Dieu. Et il devait préparer, donc, offrir à l'Éternel un sacrifice dit d'expiation, pour que les péchés soient expiés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'expiation ? Expier, ça veut dire enlever, ôter le péché. C'est enlever le péché devant Dieu, expier nos péchés devant Dieu. Vous savez, il est dit de Jésus, parce que pour comprendre l'Ancien Testament, il faut aller jusque dans le Nouveau, il est dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a enlevé le péché du monde. L'Écriture dit même qu'il est pour nous, 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, il est pour nous une victime, Jésus, expiatoire. Ça veut dire que lorsque nous confessons nos péchés, lorsque nous l'avons fait, lorsqu'on confesse le nom de Jésus et qu'on se repent de nos péchés, par la grâce de Dieu et par le sacrifice expiatoire de Jésus, sont totalement pardonnés. Alléluia. Alors, pourquoi je dis cela et pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est parce qu'il me semble que parfois, dans le peuple de Dieu, il y a un certain niveau de culpabilité, de fausse culpabilité qui demeure, alors que par la grâce de Dieu, nous avons été réellement, réellement libérés de nos péchés devant Dieu. Vous savez, il y a un petit cantique qui dit que le Seigneur ne voit plus ce que j'étais, mais il voit Jésus. Et ça, c'est quelque chose de formidable, de savoir qu'en Jésus-Christ, pas en nous-mêmes, mais en Jésus, eh bien nous sommes totalement, complètement libérés de la puissance et du pouvoir du péché. Le péché est une force destructrice, on le sait, mais le peuple de Dieu, de la Nouvelle Alliance, en a été libéré, alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore été libérés, le Seigneur leur laisse du temps pour qu'ils se repentent, pour qu'ils fassent la paix avec Dieu. Tout à l'heure, je parlais de Jonas, mais quand on étudie le récit de Jonas, en ce moment je l'étudie, on voit que Jonas va dire à Ninive que Dieu lui donnait 40 jours. 40 jours après quoi Ninive serait détruite. Dieu donne du temps. Et je crois qu'aujourd'hui encore, comme dit l'Écriture, la patience de Dieu, c'est notre salut. Et il attend que nous venions à lui tel que nous sommes. Vous savez, il y a un verset qui dit, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais il faut venir au Seigneur. Il faut quitter notre barque. Et parfois, il faut marcher sur les eaux de ce qu'on a. Et il faut quitter notre confort religieux aussi et aller vers Jésus, alléluia. Parce qu'auprès de Jésus, il y a la vie et il y a la vie en abondance. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le sacrificateur avait reçu l'onction et pourtant, le sacrificateur, nous sommes tous et toutes un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Est-ce que vous le croyez ? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui offre des sacrifices. Mais vous voyez le sacrificateur ici qui avait reçu l'onction, eh bien peut pécher. Et ça, c'est étonnant. C'est-à-dire que bien que nous ayons reçu l'onction, enfin du moins je l'espère, que vous avez reçu l'onction, que vous avez reçu même la plénitude du Saint-Esprit, c'était la question de l'apôtre Paul aux Éphésiens, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Vous l'avez reçu ? Oui, hein. Et cette onction, dit la Bible, nous enseigne de façon particulière. Mais il est dit, si le sacrificateur, si c'est le sacrificateur qui a reçu l'onction, qui a péché, il offrira à l'Éternel pour lui-même, eh bien, un sacrifice. Il offrira pour lui-même un sacrifice. Mes amis, je réalisais cela ce matin, l'onction de Dieu, eh bien, ne nous empêche pas forcément de pécher. Ce qui nous empêche de pécher, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de l'Éternel. C'est elle qui nous garde du péché. C'est elle qui nous garde du mal. Et que Dieu nous en garde. Amen. Mais si nous avons péché, nous avons un sacrifice divin et glorieux auprès du Seigneur, auprès du Père. Et ce sacrifice, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, nous sommes aussi également appelés à offrir des sacrifices. Il y a le sacrifice de Jésus, notre Seigneur, qui s'est donné à la croix pour expier nos péchés, mais n'empêche que la vie, même chrétienne, parce que nous péchons ici ou là, et nous en avons besoin de la grâce de Dieu quand on pêche contre les commandements du Seigneur, mais ensuite on doit aussi vivre une vie, je dirais, de consécration. De consécration. Il est important de se livrer au Seigneur, de se donner au Seigneur, pas simplement avec des paroles, mais corps et âme aussi. Est-ce que vous êtes d'accord? Il ne suffit pas simplement de suivre les réunions sur Internet. C'est bien, gloire à Dieu. C'est important de suivre les réunions. Si on ne peut pas se réunir, on les suit par Internet. Mais notre vie, la vie chrétienne, c'est aussi une vie de sacrifice. En fait, la vie chrétienne, ça se situe entre la Légion étrangère et le Club Med. La vie chrétienne, ce n'est pas le Club Med. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Et la vie chrétienne, ce n'est pas non plus la Légion étrangère. Même si il y a des vies que je n'aurais pas aimé vivre. Vous savez, parfois on lit la parole de Dieu et on voit des hommes qui ont vécu un certain style de vie. Par exemple, je pense à Esther. Bon, sa vie n'a pas été forcément facile au départ, mais quand même après, elle a eu une petite vie de reine. C'était quand même sympathique. Joseph, quant à lui, il fut un garçon qui aussi a commencé de façon difficile sa vie. Il a été testé, il a été éprouvé, il a été brisé même. Et on a voulu le détruire. Mais on voit que ses branches se sont élevées au-dessus de la muraille. Il a surmonté les difficultés qui sont venues à lui, le rejet, le mépris, l'injustice, les trahisons. Il en a vu des vertes et des pas mûres. Mais à l'âge de 30 ans, Joseph va devenir quand même premier ministre et les choses vont aller mieux. Par contre, il y a des vies, il y a d'autres vies plus difficiles à vivre, je dirais. Par exemple, quand on est amené à suivre Jésus. On est amené à suivre Jésus. Est-ce que vous voulez suivre Jésus? Oui. Alors, suivre Jésus. Si nous sommes un royaume de sacrificateurs qui offrons des sacrifices, eh bien, il faut se dire qu'il y aura un prix à payer. Alors, la Bible ne se contredit jamais, elle se complète. Le sacrifice de Jésus est accompli, il a tout accompli. Nos péchés ont été pardonnés. Nous n'avons rien à faire pour que nous puissions être plus aimés par Dieu ou plus pardonnés par le Seigneur. Alléluia! Et ça, c'est important, parce qu'il y a aujourd'hui, même des enseignements qui contredisent cela. Vous avez donné votre vie au Seigneur dans les eaux du baptême. La Bible dit « Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles » et on dit « Amen ». Oui, mais après, il y a des enseignements ici ou là qui vont vous faire dire, mais il y a peut-être des choses intergénérationnelles qui n'ont pas été réglées encore. Mes amis, la puissance de la croix, elle a tout réglé. Et si on confesse nos péchés, la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité intergénérationnelle ou pas. La réalité de la parole de Dieu, c'est ça. Amen. Et il ne faut pas remettre en question la puissance et le pouvoir de la croix dans nos vies. Mais nous devons, malgré tout, ceci ayant été dit, vivre une vie de consécration à Dieu, alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord? Et pas simplement avec nos lèvres, bien que ce soit important. L'apôtre Paul dira ceci dans Romains, au chapitre 12, après justement avoir fait de longues énumérations, de longs enseignements sur le pardon, sur la grâce, sur la justification par la foi notamment, Romains 5, 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, c'est une réalité, alléluia. Comment ça va avec Dieu? Mais oui, on a la paix avec Dieu, et on a la paix de Dieu, amen. Et Paul dira ceci, « Je vous exhorte donc, Romains 12, verset 1er, c'est une sorte de conclusion, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Paul dit, je vous exhorte donc, et ce matin, je vous exhorte à nous offrir à Dieu. On peut offrir des choses à Dieu et c'est bien, mais ce que Dieu désire, c'est que nous nous donnions à lui complètement, corps et âme. Vous voyez, on peut suivre de loin, mais pour pouvoir offrir un sacrifice agréable à Dieu, quand il faut être réuni et il faut être présent avec son corps. Il y a des gens, des fois, ils disent, « Pasteur, je suis avec vous, mais c'est trop loin, on est ensemble, on est en esprit. » Non, mais les esprits, c'est bien, mais il faut quand même qu'on soit présent avec notre corps. Alléluia. Amen. On doit offrir notre corps. Et quand on lit la vie de l'apôtre Paul, Paul a offert son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Offrir son corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que ça peut coûter parfois même physiquement de servir le Seigneur. Ça peut coûter de la transpiration. Ça peut coûter des efforts. Vous voyez Jésus à Gethsémané, qui par exemple va demander à ses disciples, à l'heure des ténèbres, de prier avec lui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Tandis que Jésus, lui, il est en train de suer des grumeaux de sang parce qu'il doit affronter la croix. Et il y a des moments où servir le Seigneur, il faut se mettre nous-mêmes sur l'autel. Il faut se donner au Seigneur. Par exemple, en ce moment, je sais que peut-être de vivre l'Église, vivre l'Église en présentiel, ça peut coûter quelque chose. C'est beaucoup plus confortable de rester à la maison, oui ou non? Et de regarder le pasteur Yvan Cassard de liker, tu sais? Il y en a, ils font ça. On se demande pourquoi ils font ça, mais regarde pas, hein, si ça te plaît pas, on t'oblige pas, n'est-ce pas? Offrir notre vie comme un sacrifice vivant. Il y a un prix à payer. Si on veut suivre et servir le Seigneur, il y a une croix à porter. Jésus disait, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même et se charger chaque jour de sa croix. Alléluia. Alors nous sommes appelés à offrir nos vies en sacrifice. L'apôtre Paul dira aux Philippiens également, il parlera de sacrifices et de bonne odeur que les Philippiens avaient consenti à apporter à l'apôtre Paul. Et Paul dira à Philippiens 4, 18, « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins. » Nos vies doivent être offertes en sacrifice. Mes bien-aimés, nos biens doivent être offerts en sacrifice pour l'œuvre de Dieu. Il y a parfois beaucoup de dépenses qui sont faites à titre personnel et on a le droit de le faire. Mais je rends grâce à Dieu pour tous ceux et toutes celles, et c'est l'occasion pour moi peut-être de vous remercier, qui ont été fidèles dans les dîmes, dans les offrandes, pour que l'œuvre de Dieu puisse se réaliser. Pour moi, le fait par exemple qu'aujourd'hui, on puisse par la grâce du Seigneur, ça c'est fantastique, que l'on puisse par la grâce du Seigneur régler notre crédit que nous avions contracté sur 15 ans, en 2 ans environ, je dis c'est une grâce de Dieu, mais c'est parce que des bien-aimés ont eu à cœur de se donner au Seigneur et de donner ce qu'ils ont de meilleur au Seigneur pour l'avancement du royaume de Dieu. Et en la matière, il n'y a pas de petit sacrifice que Dieu ne considère pas. La parole de Dieu nous dit qu'une petite veuve, un jour, avait donné au temple et Jésus l'a vu et ça a touché le cœur de Dieu. Mes amis, tout ce que nous faisons pour le Seigneur contribue à l'avancement de son règne et pour sa gloire. Alors je dis merci à notre Dieu et je dis aussi merci à l'Église qui a été fidèle et qui est fidèle dans ces temps difficiles. L'Église ne connaît pas la difficulté. Gloire à Dieu! Oui, on pourrait acclamer le Seigneur et remercier aussi ceux et celles qui sont fidèles. Allez, un autre verset dans Hébreux au chapitre 13 et au verset 15. L'apôtre dit ceci, Hébreux chapitre 13, verset 15, « Par lui, par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice, un autre sacrifice, un autre aspect de la vie de sacrifice que nous sommes appelés à offrir au Seigneur, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Le fruit de lèvres qui confesse son nom, un sacrifice de louange. Quand on vient le dimanche matin dans l'église pour louer le Seigneur, on devrait le faire de façon très spontanée. Alors je sais qu'on chante de tout notre cœur, mais quand c'est le moment, à titre personnel, de louer le Seigneur, de faire monter vers Dieu notre reconnaissance et notre adoration, ça serait bien que ça jaillisse aussi, vous ne trouvez pas ? Il y a des gens, je suis étonné, à l'heure de la prière, il n'y a pas un mot qui sort de leur bouche. Il n'y a pas un amen. Il n'y a même pas le nom de Jésus. Et puis, dès que la réunion de prière est finie, c'est fou qu'est-ce qu'ils deviennent bavards. Alors devant Dieu, on est incapable de s'exprimer et quand on est là face à nos collègues, à nos amis, alors là on ne peut plus nous arrêter. Et le Seigneur, des fois, aurait peut-être envie de nous dire « Mais loue-moi ». Je réalisais ceci dernièrement, je crois que Jésus aime de façon particulière lorsqu'on le loue de tout notre cœur, lorsqu'on l'adore en esprit, en vérité. Fais-moi entendre ta voix, dit le cantique des cantiques. Ouvre ta bouche, dit le Seigneur, et je la remplirai. Parce que parfois, au travers d'une louange, au travers d'une prière, on peut être réchauffé dans notre cœur, on peut être encouragé dans notre cœur. Et moi, je rends grâce à Dieu pour ceux et celles qui le dimanche matin ou que ce soit dans l'intercession, chaque jour, osent élever leur voix et proclamer le nom merveilleux de Jésus. Et bien sûr, parfois, ça peut coûter plus que d'autres. Il est question d'un sacrifice de louange. Parfois, on peut ne pas avoir envie de louer le Seigneur parce que notre âme n'est pas bien disposée, parce qu'on a vécu une semaine difficile, parce qu'on a eu des contrariétés. Alors notre âme est comme chargée, elle est comme emprisonnée. Mais il faut se secouer dans la présence de Dieu et dire « Je ne laisserai pas les circonstances dicter ma louange, dicter l'expression de ma foi, mais c'est ma foi qui prendra autorité dans ce lieu pour louer le nom de Jésus. Amen. » Paul et Silas ne se sont pas laissés, ne se sont pas écoutés. Il y avait de quoi être découragé en prison. Mais la Bible dit qu'ils vont prier et chanter les louanges du Seigneur. Ils vont offrir un sacrifice de louange. Et le Seigneur aime quand nous le louons de tout notre cœur. Alléluia! Alléluia, frères et sœurs! Dieu aime quand on le loue. Dieu aime quand on sacrifie un petit peu de temps dans notre vie, un petit peu de notre confort de vie. Et je crois que le Seigneur sera honoré. Alors, offrons au Seigneur des sacrifices. Il y a bien sûr le sacrifice d'expiation. Nous n'avons rien à ajouter, nous n'avons rien à retrancher. Et il y a le sacrifice de notre vie. Et si nous faisons, et si nous venons et nous revenons chaque jour vers le Seigneur, au quotidien, que nous nous plaçons au pied du Seigneur, eh bien le Seigneur nous donnera sa paix. Il nous donnera sa joie, il nous donnera d'expérimenter sa grâce au quotidien. Déjà dans l'Ancien Testament, il était possible, avec des sacrifices d'animaux, d'être pardonné, d'être réconcilié avec le Dieu vivant et vrai. À combien plus forte raison le sang de Jésus, qui nous a purifiés, nous libère d'une mauvaise conscience pour qu'on serve le Seigneur. Et pour qu'on le serve pas à moitié, mais qu'on le serve de tout notre cœur et sous l'onction du Saint-Esprit. Ce matin, dans la louange, il y a de la force. Il y a de la force. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est dit, je ne vais pas aller trop loin, c'est très riche en fait le Lévitique. Il est dit que le sacrificateur devait mettre du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Mes amis, on est devant Dieu ce matin, vous êtes d'accord? On est devant Dieu. Le Seigneur est ici, on est devant Dieu. Et il y avait des cornes à l'autel des parfums. Et les cornes, c'est le symbole de la force, c'est le symbole de l'autorité. Et il y a une force et une autorité lorsqu'on le loue, lorsqu'on l'adore, lorsqu'on communie avec lui. Il y a une grâce particulière. Et il y a une force dans la louange, il y a une autorité dans la louange. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Il y a une puissance, une autorité qui brise les chaînes, qui font trembler, qui fait trembler l'enfer lorsque je le loue de tout mon cœur. Alors ne te prive pas, ne nous privons pas, que ce soit de façon personnelle ou collective, et bien louant constamment notre Dieu parce qu'il en est digne, que le nom du Seigneur soit béni. On pourrait se mettre debout quelques instants. Et on va mettre en pratique ce temps pour louer le Seigneur devant l'Éternel, devant le Seigneur. Il y avait un voile, la Bible nous dit, devant le voile, mais le voile dans le Nouveau Testament a été déchiré et par la grâce de Dieu, je peux m'approcher de Dieu, je peux communier avec le Seigneur, je peux expérimenter une grâce renouvelée. Et Seigneur, ce matin ensemble, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, nous voulons te dire merci, notre Dieu. parce qu'il y a auprès de toi le pardon, il y a auprès de toi l'expression de l'amour et de la grâce. Mais Seigneur, nous voulons en retour notre Dieu, nous voulons louer ton nom, nous voulons louer ta personne, elle est pleine de charme, nous voulons offrir, Seigneur, nos vies comme un sacrifice vivant qui te sera agréable ce matin. Et nous savons, Seigneur, qu'il y a une corne à l'autel des parfums, il y a une force dans la louange, il y a une autorité dans la prière, Seigneur, qui brise les chaînes. Je te prie ce matin de faire du bien à l'Église, je te prie d'enlever les vêtements, Seigneur, du découragement, les vêtements de la culpabilité, je te prie, Seigneur, de revêtir tes sacrificateurs d'un vêtement sacré de louange, d'action de grâce. Seigneur, nous te disons à toi la gloire ce matin, à toi la louange. Merci parce qu'on est purifié, on est libéré. Merci parce que tu as jeté nos péchés au fond de la mer et nous pouvons te louer en esprit, en vérité, dans la liberté glorieuse, dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Seigneur, je te prie de ranimer ce matin, de ranimer un esprit de louange, un esprit d'adoration. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu en es digne. Nous te disons à toi la gloire, la louange et l'honneur, notre Père, au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous élever quelques instants la voix dans sa présence? Approchons-nous du trône de la grâce. Le voile a été déchiré. Nous sommes devant Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas des animaux ce matin à offrir. Jésus s'est offert pour toi, pour moi, une fois pour toutes. Et désormais, on peut, eh bien, donner nos vies pour une quelque chose qui vaut la peine, une vie de sacrifice que Dieu agrée, que Dieu honore. Seigneur, merci d'être là ce matin, au milieu de nous par le Saint-Esprit. Alléluia! Je t'adore, Seigneur. Je te célèbre, mon Dieu, avec ton peuple, avec tes enfants. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie. Merci pour le sang précieux qui nous purifie, qui nous justifie, qui ferme la bouche à Satan. Merci, notre Dieu, parce que tu es là ce matin, dans l'église, tu sièges au milieu de nos louanges. Tu habites au milieu de nos louanges. Et nous te disons à toi la gloire, à toi l'honneur, au siècle des siècles. Tu en es digne, notre Père. On peut acclamer Jésus encore une fois. Il est digne. Amen, amen.